C'est l'heure du journal, il est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Nous irons en Égypte dans un instant retrouver notre correspondant au Caire, François Ferkataji, pour les premiers détails sur l'attentat majeur qui a pris pour cible aujourd'hui une mosquée du nord du Sinaï. Il y aurait plus de 235 morts et des dizaines de blessés. Au Zimbabwe, le changement dans une certaine forme de continuité. Après 37 ans de pouvoir, Robert Mugabe a dû laisser la place à celui qui a longtemps été son vice-président, Emmerson Mnangagwa. Valentine Riou a assisté pour nous dans un stade bondé de la banlieue d'Harare à la cérémonie d'investiture de celui qu'on appelle le crocodile. En France, les chiffres du chômage viennent de tomber. Ils montrent une légère hausse du taux de chômage à la fin du mois d'octobre. Analyse à suivre d'Hélène Masquelier. Nous parlerons également environnement dans ce journal. Nous écouterons Nicolas Hulot à propos de son Green Deal présenté ce matin, aussi bien destiné, selon le ministre de la Transition écologique, à faire du social que de l'environnemental. Et puis, l'enquête de cette édition nous mènera en Syrie. Dans le pays, un embargo strict est en vigueur depuis 2011, notamment à l'instigation de l'Union européenne. Embargo largement et assez systématiquement contourné, nous expliquera Philippe Reltien. Il y a plus de 200 morts d'après un bilan qui toute la journée aura évolué très rapidement et qui d'ailleurs n'est peut-être pas encore stabilisé. En Égypte, une attaque de très grande ampleur a touché aujourd'hui, jour de grande prière, une mosquée du nord du Sinaï dans le village de Bir al-Abed. Il y aurait d'après le dernier bilan établi par les autorités 235 morts et plus d'une centaine de blessés. C'est l'attentat le plus sanglant jamais recensé en Égypte. Cette attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée. En direct avec nous du Caire, François Ferkataji, bonjour.
Bonjour.
L'attaque a consisté en une puissante explosion suivie d'un carnage à l'arme à feu.
Oui, d'après les témoignages, quatre pick-up sont arrivés aux abords de la mosquée de la petite ville de Bir el-Abd, au centre du Nord Sinaï. Ils ont fait exploser à l'extérieur de la mosquée une ou plusieurs bombes, une mosquée fréquentée par des musulmans du courant soufi. Effrayés, les fidèles se sont rués vers la sortie et c'est à ce moment-là que les hommes en armes ont tiré au fusil automatique. C'est la pire attaque terroriste que le pays a jamais connue. Les images de la scène montrent des corps enroulés dans des couvertures posées à même le sol de la mosquée.
François, ce soir, les regards se tournent vers la branche égyptienne de l'organisation État islamique qui pourtant jusqu'à aujourd'hui ne s'en était jamais pris aussi violemment aux civils musulmans dans cette région du nord du Sinaï.
Oui, d'ailleurs, Bir el-Abd, c'est une ville que les combattants de l'État islamique ont essayé de prendre, de contrôler en 2015. Ce groupe revendique très régulièrement des attaques contre les forces de sécurité dans la région. Ils se sont attaqués aussi récemment aux Coptes dans cette zone du Nord Sinaï. Des assassinats ciblés qui ont également visé des soufis, des chefs religieux notamment, mais c'est la première fois effectivement qu'une attaque d'une telle ampleur vise des civils, des musulmans en particulier. Pour le moment, malgré les soupçons sur l'État islamique, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Selon certains observateurs, c'est la tribu bédouine Sawarka qui était directement visée, une tribu qui a publiquement exprimé son intention de s'allier avec l'armée égyptienne pour combattre le groupe État islamique. Il est clair que c'est un nouveau choc pour l'Égypte. En 2017, les attentats d'ampleur se sont multipliés dans le pays, alors que Sisi, le président Sisi, a fait de la lutte contre le terrorisme son objectif premier. Face à l'effroi et devant ce bilan très lourd, il a d'ailleurs choisi de montrer les muscles. Il a promis, je cite, une réponse brutale. Il s'est exprimé très récemment à la télévision. Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement. Une réaction désormais devenue une habitude pour les Égyptiens.
Merci François Ferkataji en direct du Caire. J'ajoute que les autorités égyptiennes ont décrété un deuil national de 3 jours dans le pays. En Turquie, une affaire qui pourrait bien gêner le pouvoir en place si toutefois elle trouve un écho dans le pays, ce qui n'est pas du tout certain. Une affaire qui relance le débat sur les gigantesques purges lancées notamment dans la fonction publique par le président Recep Tayyip Erdogan. Après le putsch manqué de 2015, plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires avaient perdu leur poste et la situation de beaucoup d'entre eux reste encore aujourd'hui très compliquée. On en a l'illustration ces jours-ci avec l'exemple de cette famille décimée en Méditerranée. Après avoir tenté l'exil sur la route des migrants, ce sont les premiers citoyens turcs signalés dans cette situation. À Istanbul, les explications d'Alexandre Billette.
Hüseyin Maden, 40 ans, sa femme Nour, 36 ans, et leurs 3 enfants avaient pris place à bord d'un bateau acheté 1000 euros parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les passeurs qui demandaient 5 fois plus. Et leur famille a reçu un dernier message par téléphone début novembre. « Nous sommes en mer, nous voyons déjà les lumières de Lesbos ». Et quelques jours plus tard, les corps de 3 enfants étaient repêchés sur les rives grecques, puis jeudi, le corps d'un homme. Il s'agit vraisemblablement de cette famille. Une carte d'identité a été retrouvée, mais les autorités turques n'ont pas encore commenté cette tragédie. Selon un proche de la famille, il vivait caché depuis 1 an, depuis que les parents avaient perdu leur emploi et qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à la mouvance güléniste. En Turquie, la nouvelle n'a pas été largement diffusée. Une pudeur, probablement due au fait que ce sont des médias à l'étranger, proches de Fethullah Gülen, qui ont d'abord publié l'information, ensuite reprise par la presse grecque. En Turquie, au moins 140 000 fonctionnaires ont été licenciés depuis la tentative de putsch. Pour la plupart, leur passeport a été annulé, leur sécurité sociale supprimée. Selon un rapport dévoilé par le parti d'opposition CHP, depuis 1 an, une 40aine d'employés de la fonction publique se sont suicidés en Turquie après avoir été déchus de leurs droits.
Alexandre Billette, et d'après un rapport publié aujourd'hui par l'Organisation internationale pour les migrations, la Méditerranée représente bel et bien la frontière la plus meurtrière au monde, avec plus de 33 000 migrants qui y ont trouvé la mort depuis 2000. Une baisse du taux de chômage par la création d'emplois, une amélioration du système de santé, des efforts sur l'éducation. Au Zimbabwe, aucune promesse n'était trop belle dans le discours d'investiture d'Emmerson Mnangagwa aujourd'hui. Le nouvel homme fort du pays a voulu, malgré ses 75 ans et son implication dans le régime de Robert Mugabe, apparaître comme une figure du renouveau. Il a axé son discours sur la situation économique, pourtant catastrophique, du pays. Reportage dans le stade aux abords d'Harare, où a eu lieu la cérémonie. Valentine Rioux.
Emmerson Mnangagwa a été investi président en grande pompe devant un stade bondé. Après la parade militaire, le nouveau président a pris la parole. Emmerson Mnangagwa a prôné l'unité, mais il a surtout promis de redresser l'économie sinistrée du Zimbabwe. Un discours important pour la population cruellement touchée par le chômage.
Je suis au chômage. J'ai essayé de trouver du travail, mais il n'y en a pas dans ce pays. Donc nous espérons des créations d'emplois. Peut-être que les autres pays vont enfin pouvoir nous aider.
Emmerson Mnangagwa a aussi évoqué l'idée de compenser les fermiers blancs qui ont perdu leurs terres au cours de la réforme agraire initiée par Robert Mugabe.
Je suis sûr qu'il y aura plus d'emplois. J'ai entendu qu'ils voulaient faire revenir les fermiers blancs, alors j'espère qu'ils nous donneront du travail.
Le flou règne sur la composition du futur gouvernement, mais certains Zimbabwéens aimeraient voir l'opposition y jouer un rôle.
C'est très important de travailler avec l'opposition pour redresser l'économie.
Loin de rejeter le passé en bloc, Emmerson Mnangagwa a également saluer l'action passée de son prédécesseur Robert Mugabe à la tête du pays.
Reportage à Harare de Valentine Rioux. En France, il faudra s'y faire, mais la publication mensuelle des chiffres du chômage ne sera bientôt plus l'usage. Les indicateurs deviendront trimestriels dans quelques mois. On va y revenir. Bonsoir Hélène Masquelier.
Bonsoir.
En attendant l'établissement des nouvelles règles, des nouvelles pratiques, on a ce soir le nombre de demandeurs d'emploi à la fin du mois d'octobre. Il vient d'être publié par Pôle emploi. Ces chiffres montrent une légère augmentation du taux de chômage.
En effet, ce mois-ci, Pôle emploi dénombre 3,48 millions de personnes dans la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans activité, et on monte à 5,62 millions de personnes dans la France entière si l'on compte les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité partielle. En tout, c'est donc 0,2% de chômeurs de plus par rapport au mois dernier, 0,2% également si on regarde l'évolution sur un an. Mais si l'on étudie les chiffres par trimestre, là, on aperçoit l'inversement de la tendance, avec un recul de 1% des demandeurs d'emploi. Et c'est encore plus clair pour les moins de 25 ans, 0,4% de jeunes chômeurs en plus, mais une baisse de 4,5% sur le trimestre.
Ceci explique peut-être cela, hein. C'est une volonté du gouvernement. Hélène, dès janvier prochain, les chiffres de Pôle emploi ne seront plus étudiés que par trimestre.
Oui, en effet, et le nouveau procédé vise à mettre l'accent sur l'évolution de la tendance globale de la courbe du chômage. Depuis le début de l'année, le nombre de chômeurs de catégorie A a évolué en dents de scie, avec 6 hausses, 4 baisses. Et les statistiques de Pôle emploi contredisent tous les autres indicateurs du marché de l'emploi. Tous passés dans le vert avec une augmentation de 1,8% prévue en 2017 par l'INSEE. Des chiffres qui se rapprochent plus des attentes du gouvernement qui espère, conformément à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, descendre à 7% de chômage d'ici 2022.
Merci Hélène Masquelier. Les plaidoiries de la défense se poursuivent au procès d'Abdelhakim Dekar cet après-midi au palais de justice de Paris. Le tireur de Libé risque une peine de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. C'est en tout cas ce qu'a requis ce matin l'avocat général. Le verdict est attendu dans la soirée. Pour venir à bout de l'actuelle vague de suicides au sein de la police et de la gendarmerie, la solution viendra en grande partie du management. C'est une des conclusions tirées aujourd'hui à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur entre Gérard Collomb, les syndicats de policiers et les représentants de la gendarmerie. Aucune mesure nouvelle n'a été dévoilée à l'issue de cette réunion, mais les différentes parties ont convenu de se retrouver avant la fin du premier trimestre 2018. Et même si la possession d'une arme est un facteur facilitant dans le passage à l'acte suicidaire, a reconnu le ministre de l'Intérieur, il a redit qu'il n'était pas question de revenir sur le port d'armes hors service pour les forces de l'ordre. Une victoire importante, même si elle est précaire pour les défenseurs des abeilles. Le tribunal administratif de Nice a suspendu ce matin la vente de deux pesticides tueurs d'abeilles contenant du sulfoxaflor. Décision prise en référé au nom du principe de précaution, en attendant que la justice statue sur le fond, sur l'avenir du closer et du transform de pesticides qui avaient été autorisés fin septembre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Écoutez la réaction de Gilles Lagneau, président de l'Union nationale de l'apiculture française.
C'est une forme de sagesse, quoi, quelque part. On peut pas décider de mettre sur le marché un produit dès lors qu'on n'a pas eu tous les éléments pour voir les risques qu'il fait encourir. D'autant plus que tout le monde maintenant est convaincu qu'il faut protéger les pollinisateurs. Ce produit-là, pour nous, c'est un néonicotinoïde. Pour d'autres, ce n'en est pas un, mais de toute manière, il agit comme un néonicotinoïde. Donc, il est hautement toxique, hautement dangereux pour les abeilles, mais pour tous les pollinisateurs. Ce genre de produit affecte le système nerveux, attaque les neurones et fait perdre, entre autres, la mémoire aux insectes. Ce qui est extrêmement grave, je dirais, parce que là, on s'aperçoit, au niveau de nos colonies, qu'on a des pertes d'abeilles considérables. Donc, je trouve que c'est quelque part remettre les points sur les i, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter.
Des propos recueillis par Jérôme Jadot. Nicolas Hulot a présenté ce matin son Green Deal, qu'il voit comme une nouvelle donne environnementale, ou comment enfin essayer d'arriver à faire baisser la consommation énergétique en France. Rien de ce qui avait été tenté depuis des décennies n'a été pleinement convaincant. Ce plan, qui concerne aussi bien les logements d'habitation que les bâtiments publics, avec l'objectif de 500 000 logements rénovés chaque année, ce plan pourra-t-il permettre d'engager la transition énergétique sur de bonnes bases? C'est ce qu'espère le ministre de la Transition écologique, qui a tenu à rappeler à l'occasion de cette journée et de cette annonce que son portefeuille ministériel inclut aussi la solidarité. Nicolas Hulot.
C'est un plan d'abord presque social avant d'être énergétique, puisque c'est un plan qui vise sur 10 ans à éradiquer ce fléau de ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui condamne des gens à des difficultés économiques pour payer leur énergie avec une double peine, c'est qu'en plus ils sont dans des situations d'inconfort. Et ce plan, qui est la priorité de ma stratégie énergétique, conditionne le succès de tous les autres objectifs énergétiques, parce que si on ne réduit pas la consommation énergétique, quel que soit le modèle énergétique que l'on va développer, on n'y arrivera pas. Donc on va cibler prioritairement les millions de passoires énergétiques en France, et on va cibler dans le plan également les bâtiments publics, qui sont là aussi une source d'économie d'énergie importante, qui ont été un peu laissés en jachère ou à l'abandon jusqu'ici, avec un objectif, pendant le quinquennat, de rénover un quart des bâtiments publics. Alors pour ce faire, l'État va mettre à disposition, à travers différents dispositifs, 14 milliards d'euros sur le quinquennat, donc c'est un changement totalement d'échelle, avec une simplification des procédures, notamment un guichet unique, pour donner une visibilité, une lisibilité, une fluidité, et permettre à tous les Français d'accéder à ces dispositifs. Et je dirais qu'au-delà d'être un plan social, au-delà d'être un plan énergétique, c'est un extraordinaire plan de création d'emplois, parce que si nous tenons ce plan, On va parler avec une certaine prudence, mais ce sont plusieurs centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés.
Des propos recueillis pour France Culture par Véronique Robérotte. À la veille de la présentation par Emmanuel Macron d'une série de mesures pour mieux accompagner les femmes victimes de violences, notamment la mise en place d'un signalement par Internet, les premières concernées ont décidé d'élever la voix aujourd'hui sans attendre le moment politique pour mettre la pression. Un happening est prévu dans quelques minutes sur la place de la République à Paris. Sur le même modèle, un rassemblement avait eu lieu au même endroit ce matin. Rassemblement suivi pour nous par Anne Lamotte.
Le regard dur, le ton déterminé, elles sont une quinzaine à prendre la parole tour à tour à l'adresse d'Emmanuel Macron.
Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Jamais.
Une phrase courte et percutante prononcée toutes les 55 secondes. Car toutes les 55 secondes en France, une femme est victime de violences sexuelles. Et ça ne peut plus durer, hurlent ces militantes qui réclament des actes, notamment une vraie formation pour tous les professionnels en contact avec des victimes. Policiers, médecins ou magistrats, par exemple. Et pour cela, il faut de l'argent, des sous, monsieur le Président, exige notamment Laure Salmona du collectif Féministe contre le cyberharcèlement.
En Espagne, en juillet, un plan a été décrété de financement à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc nous, on pense qu'on peut pas faire avec moins en France. Et aujourd'hui, le budget des droits des femmes, c'est 0,07% des budgets de l'État. Donc c'est rien. C'est un problème de volonté politique, en fait. À un moment, il faut dire, en France, ça n'est plus possible que les violences sexuelles soient un phénomène pandémique. Donc il faut attaquer le problème à la racine, mais ça, on ne peut pas le faire sans argent ni volonté politique.
Demain, soyez donc au rendez-vous, monsieur Macron conclut fermement ses militantes féministes, au rendez-vous et à la hauteur.
Reportage d'Anne Lamotte. Et l'enquête de ce journal nous emmène maintenant en Syrie, dans le pays en guerre depuis 2011. Un embargo européen sévit, mais il est largement contourné, détourné cet embargo. La question revient dans l'actualité ces jours-ci à l'occasion des pourparlers, notamment entre les chefs d'État russes, turcs et iraniens. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur les coulisses de cet embargo en vigueur en Syrie.
Oui, cet embargo est européen, il existe depuis 2011, les 28 pays membres sont concernés, il y a aussi des sanctions américaines et onusiennes. Sur le papier, les lignes rouges sont bien tracées, pétrole, armement, technologie, banque, pas de commerce, avec des dérogations pour l'aide humanitaire, les médicaments, les vaccins, l'équipement hospitalier, l'alimentation, les produits agricoles. Sauf que cet embargo, il est largement violé. Plusieurs milliards de dollars d'aide des Nations Unies sont partis dans les poches des amis du régime, déplore le président de la fondation MSF, Ronnie Broman.
Par exemple, l'UNICEF travaille avec le Trust, c'est-à-dire l'organisme créé et dirigé par Madame El-Assad. On livre des céréales dans la main d'un très proche du régime. Un autre est un milliardaire qui tient dans sa main les communications. L'OMS fournit une banque de sang qui vaut beaucoup d'argent donc également aux forces armées syriennes. Il n'y a absolument plus aucun contrôle sur l'argent et les ressources qui sont fournies au pays.
Et puis alors il y a l'embargo pétrolier qui, d'après votre enquête, Philippe, est une véritable passoire.
Oui, le pétrole c'est le cœur de cet embargo. Et ce pétrole brut, il est tombé dans les mains de Daesh. Et malgré l'embargo, il a fini dans de nombreuses raffineries de grands groupes pétroliers occidentaux. Et tout le monde a été complice, constate l'ancien responsable du renseignement Alain Juillet.
Il aurait été intéressant de voir un certain nombre de raffineries qui sont autour de la Méditerranée, pour voir un peu si dans le pétrole qu'elles ont reçu et traité, il n'y avait pas du pétrole qui venait de chez Daesh. Et la réponse est oui, et tout le monde le savait. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que les Russes, eux, qui n'avaient pas les intérêts des autres, ont bombardé les camions. Parce que je vous rappelle que les camions de pétrole de Daesh pour aller vers la Turquie, les Occidentaux ne les ont jamais bombardés.
Et alors, Philippe, les Français dans tout ça?
Il y a plusieurs cas de figure. Vous avez la coopération culturelle qui a repris entre archéologues pour filmer les ruines de la guerre avec des drones. Côté business, vous avez des petits patrons qui sont revenus prudemment cet été à la foire de Damas. Et puis, il y a les grands groupes qui préparent déjà les contrats de la reconstruction. Un marché évalué à 400 milliards de dollars. Alors bien sûr, officiellement, pas question de passer la ligne rouge et de signer des contrats tout de suite. Tout le monde a en tête le cimentier Lafarge, poursuivi par la justice française. Mais oui, des sociétés de sécurité privées retournent maintenant à Damas pour le compte de grosses entreprises pharmaceutiques comme Sanofi, Novartis ou Pfizer. C'est ce qu'explique le responsable de la société Anticip, Richard Terzian.
Il faudra composer avec le régime actuel parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et que les cycles de vente, l'attribution des marchés et leurs paiements sont sous le contrôle du régime. Voilà. C'est important parce que ça veut donc dire que ce régime-là va accorder des faveurs à certains et pas à d'autres. Et donc s'il faut se mettre à table avec le diable, on fera.
Merci Philippe Reltien pour votre reportage à retrouver en longueur sur notre site internet, sur la une de franceculture.fr. Un rafraîchissement est attendu à partir de demain sur l'ensemble du pays. Les pluies de la matinée se changeront en neige à altitude moyenne, 500 mètres sur les Vosges et le Jura, 700 mètres sur les Alpes du nord et du nord-ouest jusqu'à la côte aquitaine. Le temps sera plus variable avec des éclaircies. Les températures matinales seront comprises entre 1 et 8 degrés du nord au sud. Attendez de 6 à 10 degrés pour les maximales.